Bonjour à tous. Bienvenue au séminaire qui est un des séminaires qui est organisé dans le cadre des séminaires communs d'AMIL, Université UFR des Sciences. Et aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Françoise Villemeux, qui est climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Elle travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et au laboratoire Hydrosciences Montpellier. Elle est spécialiste de l'étude de la variabilité et des processus climatiques à partir des isotopes stables de l'eau. Après une thèse sur la direction de Jean Jouzel sur la reconstruction des climats passée à partir de l'étude des carottes de glace en Antarctique, récompensée d'ailleurs par plusieurs prix, dont le Grand Prix Étienne Roth de l'Académie des sciences, elle a appliqué ses compétences à la reconstruction du climat tropical en analysant des archives glaciaires extraits des glaciers andants. Fascinée par le potentiel de l'outil isotope stable de l'eau, elle a orienté ses recherches sur une application plus actuelle de cet outil et depuis plus de 10 ans, elle travaille à mieux comprendre les processus physiques qui prennent place dans l'atmosphère tropicale au sein des orages convectifs que l'on rencontre dans les cyclones ou lors des saisons des moussons. Nombre de ces processus internes à ces masses nuageuses sont encore mal compris et mal quantifiés, laissant place à de fortes incertitudes dans les modèles du climat sur leur évolution dans un climat plus chaud. Donc, Françoise Villemeux s'investit aussi énormément dans la diffusion des connaissances sur le changement climatique auprès du grand public, avec le souci de sensibiliser par des explications simples et factuelles que chacun peut s'approprier. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'écouter une de ses conférences titrée « Dernière nouvelle du changement climatique, état des lieux, projection et levée d'action ».
Un grand merci. Donc, grand merci pour cette présentation et pour l'invitation. Donc, j'espère que vous allez m'entendre correctement avec le micro. Si ce n'est pas le cas, vous lèverez quelques mains et puis j'essayerai de changer l'orientation du micro. Alors, en fait, la conférence que je vais faire, ce n'est pas une conférence sur mes propres recherches. C'est une conférence qui a pour vocation de vous donner quelques bases sur ce que nous savons aujourd'hui du changement climatique. Et je vais d'abord commencer à vous montrer ce que c'est que ce changement climatique que l'on observe depuis le début du XXe siècle. Après, je vous parlerai des projections climatiques, c'est-à-dire de notre futur pour les années et les décennies à venir. Et puis, je terminerai par quelques mots sur tout ce qui est stratégie d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre pour essayer de, non pas de diminuer la température, vous le verrez, mais au moins de la stabiliser au cours du XXIe siècle. Alors, quand on parle de changement climatique, de quoi parle-t-on? Alors, quand on est climatologue, on parle de cette... Ah oui, alors, je suis tellement loin que je ne suis pas sûre que... Ah si, il est là. Donc, quand on est climatologue, en fait, on parle de cette tendance au réchauffement. Donc, ce que vous voyez en fait ici, c'est l'évolution de la température à la surface de notre planète depuis le milieu du 19e siècle. Et ce que l'on regarde en fait, c'est l'anomalie de la température par rapport à la moyenne entre 1850 et 1900. C'est pour ça que vous avez ici des degrés qui sont entre -0,2 et 1,4 degrés. Et en fait, ce sont des températures en moyenne annuelle. Alors, le climatologue s'intéresse, je vous l'ai dit, à cette tendance. Alors, peut-être je vais reprendre l'autre, parce que le mien a l'air quand même assez pauvre. Je pense que c'est peut-être la distance. Ouais, merci. Ouais, non, c'est pas ça non plus. Ah si, c'est peut-être un petit peu mieux. Donc, le climatologue s'intéresse à cette tendance. Et quand on parle... Ah, alors attendez. Il faut que j'appuie sur le... Bah non, je vois pas... Non, j'ai pris dans le bon sens. Ah, voilà, ça y est, j'en ai besoin. Bon, alors, on va y arriver. Voilà, et donc quand on parle du changement climatique aujourd'hui, qui est de quasiment 1,2 degré, ce que l'on compare, c'est la dernière décennie, 2013-2022, par rapport à la température moyenne sur la deuxième partie du 19e siècle. Alors, vous avez ici plusieurs jeux de données, en fait, qui correspondent à des reconstructions qui sont réalisées par plusieurs équipes à l'international, qui évidemment partent des mêmes données. Ce sont des observations météorologiques sur les continents, ce sont des observations sur des bouées, sur des bateaux, à la surface des océans. Et vous voyez que quasiment toutes les équipes, en fait, arrivent à des reconstructions qui sont similaires. Ce que vous pouvez certainement voir en fait sur cette courbe, c'est que sur les 40 dernières années, chaque décennie a été plus chaude que la précédente. Et vous voyez que ce changement climatique, il n'est pas linéaire. Si vous regardez au cours du XXe siècle, vous voyez qu'on a des périodes où la température reste assez stable. Elle peut même diminuer sur plusieurs décennies de suite. Et le climatologue s'intéresse encore une fois à cette tendance et non pas à la variabilité interannuelle qui est de l'ordre de la météorologie. Alors ça, c'est une synthèse sur l'ensemble de notre planète. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller regarder comment ce réchauffement se répartit suivant l'endroit où vous êtes sur Terre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la même information que la diapositive précédente. Donc, c'est l'évolution de la température depuis la fin du 19e siècle en 2022, un peu partout sur Terre. Et vous voyez qu'en fait, on a des disparités spatiales, même si ça se réchauffe quasiment partout, à quelques exceptions. Vous voyez dans l'océan Atlantique Nord, au sud du Groenland, et sur certaines régions de l'océan Pacifique. Alors, ce que l'on voit, en fait, la première chose, c'est que le réchauffement, il est plus important sur les continents que sur les océans. Si je recompare la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle, sur les continents, le réchauffement n'est plus de 1,15 degré, mais il est de 1,6 degré. Et sur les océans, il est de 0,9 degré. Et puis, ce que vous voyez aussi, c'est une différence en termes de latitude avec des températures qui sont beaucoup plus élevées aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. Si vous regardez ici la color bar, vous voyez qu'on a atteint dans certaines régions un réchauffement qui est déjà de près de 4 degrés, donc trois fois supérieur à la moyenne globale. C'est aussi d'ailleurs le cas pour une partie du continent européen. Alors, si on est un peu chauvin et qu'on regarde ce réchauffement climatique uniquement sur la France hexagonale, eh bien, on obtient ce genre de graphe. Donc, vous avez ici, pour le coup, des températures absolues. Et vous avez, depuis 1900, chaque barre vous représente la température moyenne sur notre territoire. Le réchauffement aujourd'hui, en 2022, en France, par rapport au début du XXe siècle, il est de 1,8 degré, donc au-delà de la moyenne globale. Et puis, ce que vous pouvez voir, c'est que finalement, ce réchauffement, il est très peu visible jusque dans les années 1980. Et puis, on a l'impression qu'il y a une sorte un peu d'accélération à partir des années 80. Et ce qui se passe ici, comme pour beaucoup de pays développés, c'est que l'impact des émissions de gaz à effet de serre a été masquée pendant longtemps par notre pollution atmosphérique, par les particules fines que nous émettons dans l'atmosphère, qui, au contraire des gaz à effet de serre, on va en reparler, ont tendance à refroidir la surface. Donc le réchauffement global dans les pays du Nord, les pays industrialisés, les pays pollués atmosphériquement, a été masqué pendant un moment, donnant cette impression d'accélération aujourd'hui. Alors, juste pour information, 2022 a été l'année la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée en France hexagonale. Et la question se pose pour 2023. Et il faudra que je revienne pour vous donner la réponse. Alors, comment ce réchauffement, en fait, sur les 120 dernières années, se met en perspective des variations climatiques passées? Alors, vous avez ici la reconstruction de la température moyenne à la surface de la planète sur les 2000 dernières années. La première diapositive que je vous ai montrée, La courbe est ici en noir, elle est complètement compressée sur la droite de mon graphe. Et vous avez ici des reconstructions paléoclimatiques avec des archives du climat. Donc ça peut être ce qu'on appelle des spéléothèmes, hein, des stalactites, des stalagmites, ça peut être des cernes d'arbres, ça peut aussi être des carottes de glace au Groenland qui ont une résolution annuelle et qui nous permettent de reconstruire très correctement la température. Ce que vous voyez, c'est que les observations aujourd'hui, d'abord quand elles recouvrent, sur la période où elles se recouvrent avec les reconstructions paléoclimatiques, on a un très bon recouvrement. Et puis vous voyez que non seulement le niveau de température, mais la vitesse d'augmentation de cette température ici est inédite par rapport aux variations de température des 2000 dernières années. Et la température que nous avons aujourd'hui n'a rien à voir avec la température un petit peu plus élevée qu'on avait au cours du Moyen-Âge, période qu'on a appelée optimum médiéval. Alors, cette température, hein, ce réchauffement sans précédent, il est accompagné d'autres aspects qui sont absolument sans précédent. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui la concentration en dioxyde de carbone de notre atmosphère, et si vous voulez retrouver dans le passé une concentration équivalente, vous devez au moins reculer de 2 à 3 millions d'années en arrière. Évidemment, nous n'étions pas là. Lorsque vous regardez, par exemple, aujourd'hui la surface de la banquise dans l'hémisphère nord au mois de septembre, hein, lorsqu'elle atteint son minimum, eh bien, on atteint des minimums qu'on n'a jamais vus depuis plusieurs centaines d'années. On a une montée du niveau des mers qui est extrêmement rapide aujourd'hui, hein, sur les dernières années. On en reparlera du jamais vu depuis à peu près 3000 ans. Et puis, on observe aussi un recul des glaciers sans précédent sur les 2000 dernières années. Alors évidemment, la question hein, qui a agité les climatologues pendant de nombreuses années a été de comprendre la cause de ce réchauffement climatique. Alors, vous avez entendu parler, tous les 5 à 7 ans, on a ces fameuses bibles, ces rapports du GIEC, le GIEC étant le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, qui publie tous les 5 à 7 ans une synthèse et une analyse de toute la littérature scientifique sur les questions du changement climatique. Le GIEC ne fait pas de recherche, en fait, hein, il ne fait que synthétiser et analyser la littérature scientifique, et il donne en fait les connaissances que nous avons toujours assorties de barres d'incertitude, de niveaux de confiance. Si vous lisez les rapports du GIEC, vous allez voir qu'à chaque affirmation-assertion, il y a un niveau de confiance qui est associé, qui peut être faible, moyen, fort. Et pour la première fois en 2021, sur le rapport qui s'intéresse aux bases physiques du climat, il y a eu un niveau de confiance de 100%, ce qui est très rare en science, associé au fait que le réchauffement que l'on observe est entièrement dû aux activités humaines. Donc les activités humaines, c'est les gaz à effet de serre. Vous avez ici, en fait, traduit en termes de température, en fait, l'effet radiatif de nos activités. Donc le 1,15 degré observé de réchauffement aujourd'hui, c'est la résultante en fait de nos émissions de gaz à effet de serre, et grâce à notre pollution atmosphérique, ici, nous avons un petit peu diminué l'effet de ces gaz à effet de serre. En fait, si nous n'avions pas pollué notre atmosphère, nous serions déjà aujourd'hui à un réchauffement de 1,5 degré. Et puis bien sûr, il y a la variabilité naturelle du climat. Les forçages naturels du climat sur des échelles de temps de plusieurs décennies, c'est le volcanisme et le soleil. Ce n'est pas la position de la Terre par rapport au soleil. J'entends souvent parler de l'obliquité, de l'excentricité, de la précession des équinoxes, qui interviennent évidemment, mais sur des échelles de temps de plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'années. Donc lorsque l'on regarde ce qui se passe depuis le début du XXe siècle, les seuls forçages naturels que nous pouvons incriminer, c'est le soleil, les volcans, et puis ce qu'on appelle, nous, la variabilité interne, c'est-à-dire le côté chaotique de notre système climatique. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a un effet qui est quasi nul. Ensuite, sur la compréhension de notre système climatique, vous avez sur ce graphe représenté toujours les observations que je vous ai montrées dans ma première diapositive en noir. Et puis nous avons deux courbes, une courbe orange et une courbe verte. C'est ce que nos modèles de climat sont capables de faire. Alors vous voyez, nos modèles de climat, quand on les nourrit à la fois avec les forçages anthropiques et les forçages naturels, eh bien la moyenne de la trentaine de modèles de climat, c'est la courbe orange que vous avez ici. Et ce que vous voyez très bien, c'est qu'elle reproduit cette tendance au réchauffement. Si on enlève le forçage anthropique, donc les gaz à effet de serre, le forçage des gaz à effet de serre, eh bien vous voyez que nous ne sommes pas capables de reproduire le réchauffement observé sur le 20e et le 21e siècle, le début du 21e siècle. Alors très rapidement, on parle de gaz à effet de serre, je pense que vous savez ce que c'est que l'effet de serre, mais c'est important de rappeler que c'est un processus qui est d'abord avant tout naturel. Le fait d'avoir des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça permet d'avoir une température à la surface de notre planète qui a permis le développement de la vie. Si nous n'avions pas de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, la température à la surface de notre planète serait de l'ordre de moins 20 degrés. Le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, nous mettons un peu trop de ces gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde d'azote, sachant que le premier gaz à effet de serre est la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau a la propriété de pouvoir condenser et retomber. Donc en fait, on n'en a jamais trop dans notre atmosphère. Même si on en met un peu trop, ça retombe sous forme de pluie, ce qui n'est pas le cas pour le méthane ou le dioxyde de carbone qui s'accumule. Et donc aujourd'hui, on a un petit souci. Ces gaz à effet de serre en fait emprisonnent la chaleur infrarouge réémise par la Terre sous l'influence de l'énergie solaire. Alors les gaz à effet de serre, quelles sont nos émissions ? Alors vous avez ici les émissions annuelles du dioxyde de carbone depuis 1750 à gauche jusqu'à aujourd'hui, et vous avez les émissions mondiales ici, c'est la courbe rouge. Et vous voyez que cette courbe ne fait qu'augmenter. Elle a diminué ici en 2020 à cause du Covid, moins 5,4%. C'était la première fois que ça diminuait autant au niveau global depuis le début des activités humaines. Et puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que je vous ai pointé ici 1990, date de la publication du premier rapport du GIEC. Et depuis 1990, si vous regardez en fait l'air qui est en dessous ici, eh bien 50% du surplus de CO2 que nous avons dans l'atmosphère aujourd'hui a été émis depuis la première publication du rapport du GIEC. Vous avez ici j'ai décortiqué cette courbe globale avec ici plusieurs pays. Alors vous arriverez pas forcément à voir la France, mais vous pouvez regarder ici l'Europe en vert. Vous voyez que l'Europe a passé son pic d'émissions et qu'aujourd'hui les émissions européennes diminuent. Alors il y a une loi européenne qui s'est fixée de diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport à leur niveau de 1990. On n'y est pas et j'y reviendrai. Vous voyez que les États-Unis ont aussi passé leur pic d'émissions et qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil qui sont en plein développement, qui émettent. Mais bien sûr, vous regarderez les chiffres ici. Vous voyez, par exemple, on y reviendra dans un instant, que l'Inde émet toujours moins que la Chine et que l'Europe. Alors, que devient le dioxyde de carbone que l'on émet ? Eh bien, on a beaucoup de chance parce que nous avons des océans, des sols et des forêts. Et à peu près 60% de ce qu'on émet est absorbé par l'océan, les sols et les forêts. Pour l'océan, ça cause par exemple l'acidification des océans. Plus vous mettez de dioxyde de carbone dissous dans l'océan, plus votre océan devient acide. Et ça, c'est un problème pour la biodiversité, en particulier pour les coraux. Et puis le reste, eh bien, il reste dans l'atmosphère. Et comme le dioxyde de carbone est un gaz à longue durée de vie, plus de 100 ans, eh bien, il s'accumule année après année dans notre atmosphère. Et donc si vous regardez la courbe, non pas d'émission, mais de concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, elle ne fait qu'augmenter de manière linéaire depuis la période pré-industrielle. Alors toujours, j'aime bien regarder les disparités spatiales en termes d'émissions. On a commencé à en parler. Vous avez ici les émissions de dioxyde de carbone par pays en 2021. Et donc, si vous regardez ce style de carte, eh bien, le premier émetteur, c'est la Chine, un peu moins d'un tiers des émissions globales, suivi par l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Et puis ensuite l'Europe. Pour information, si vous prenez le continent africain, 54 pays, ça représente quelques pourcents seulement des émissions globales. Alors personnellement, je n'aime pas trop ce genre de carte et je préfère la carte suivante qui ramène en fait par habitant les émissions. Pourquoi je préfère ? Parce que j'allais dire, la Chine c'est un grand pays, c'est pas de sa faute si c'est un grand pays, hein. Si elle était divisée en plein de petits pays, ben, elle ne serait pas le premier émetteur. Ce qui est important, c'est d'aller regarder l'empreinte carbone individuelle des gens, et là vous voyez que la face du monde change. Les premiers émetteurs, bien c'est le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite, autant dire des pays qui ont un très fort PIB, un mode de vie et une consommation qui induisent des émissions de gaz à effet de serre particulièrement élevées. Vous voyez que la Chine, finalement, n'est plus un émetteur aussi fort. Pour information, l'empreinte carbone individuelle d'un Français, c'est 10 à 11 tonnes de dioxyde de carbone par an. Donc vous voyez qu'on est, on est beaucoup plus émetteur qu'un habitant en Chine ou bien qu'un Indien. C'est important d'avoir ces informations en tête lorsque l'on parle de géopolitique du climat. Alors en France, nos émissions de gaz à effet de serre, d'où elles viennent, 30% environ, c'est le transport. Et dans ce secteur, vous voyez que la moitié, c'est la voiture individuelle. Suivi ensuite des poids lourds, vous avez les véhicules utilitaires, vous voyez que les avions, les vols intérieurs, on regarde uniquement les émissions sur notre territoire, c'est seulement quelques pourcents. Donc le problème, ce n'est pas forcément les vols intérieurs, c'est plutôt l'utilisation de la voiture individuelle. Vous avez ensuite trois secteurs qui se suivent à peu près à égalité. C'est l'industrie, les rejets par les processus industriels. Vous avez ensuite l'agriculture, en particulier pour les émissions de méthane, avec l'élevage des bovins. Et puis vous voyez que les bâtiments, alors ce qu'on appelle bâtiments, c'est tout ce qui est lié généralement au chauffage, aux passoires thermiques, hein. C'est non négligeable. Et puis ensuite, deux autres postes, la transformation de l'énergie et la gestion de nos déchets. Ces secteurs émetteurs, en fait, hein, ils sont remis à jour tous les ans par le Haut Conseil pour le climat, hein, qui publie un rapport qui est très accessible pour le grand public. Et je crois même qu'il y a une version grand public de ce rapport avec ces illustrations qui sont vraiment très informatives. Hein. Information informative, c'est pas mal. Bon. Par rapport aux déchets, il y a le recyclage aussi qui est introduit. Le stockage des déchets. Par exemple, si on a des processus pour recycler effectivement nos déchets qui vont induire des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est pour aujourd'hui. Alors pour demain. Alors, tout ce que je vous ai montré, là, jusqu'à présent, ça repose sur des observations. Observations de température, observations d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Quand on parle des années à venir, on quitte le monde des observations pour rentrer dans le monde de la modélisation du climat. Et pour savoir comment la température va évoluer dans les années et les décennies à venir, on est obligé de travailler sur différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, puisque... on ne sait pas vraiment, finalement, comment vont évoluer nos émissions. Alors, le GIEC travaille avec 5 scénarios principaux. En fait, il y en a une trentaine, mais ils se regroupent sous la forme de 5 scénarios qui, en fait, sont une sorte de prévision de nos émissions sur le 21e siècle. Alors, vous avez d'abord deux scénarios en bleu ici, un en bleu foncé, un en bleu clair. J'insiste sur les couleurs parce que le code couleur va rester sur les diapositives d'après. Vous avez ici deux scénarios en bleu où vous voyez qu'en fait, on atteint au niveau global le pic de nos émissions aujourd'hui et puis après, nos émissions diminuent plus ou moins vite, plus ou moins drastiquement, avec pour le scénario bleu clair ici, en 2050, des émissions qui sont à zéro, ce qu'on appelle le net zéro. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'émet plus de gaz à effet de serre et si on a des émissions résiduelles, on est capable de les récupérer. Et on passe même après à ce qu'on appelle des émissions négatives. Ça veut dire qu'on récupère plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère via des techniques qui n'existent pas aujourd'hui par rapport à ce que l'on émet. Vous avez ensuite deux scénarios rouges ici, qui sont des scénarios où finalement il n'y a pas de politique d'atténuation de nos émissions. Et vous voyez qu'en fait, donc, nos émissions continuent à augmenter tout au cours du XXIe siècle. Et puis vous avez un scénario intermédiaire qui est le scénario orange, c'est celui sur lequel nous sommes aujourd'hui, où nos émissions continuent à augmenter, alors moins qu'il y a 10 ou 20 ans, mais elles continuent à augmenter. Elles se stabilisent aux alentours de 2050, puis elles diminuent. OK ? Alors maintenant, je vous montre les projections de température associées à ces 5 scénarios. Le code couleur reste le même. Donc vous avez ici les observations que je vous ai montrées précédemment et puis les projections des températures suivant les 5 scénarios. Donc première chose, quel que soit le scénario d'émission que l'on va suivre, que ce soit des scénarios où on continue à émettre beaucoup ou alors on diminue drastiquement, vous voyez que jusqu'à à peu près 2050-2070, la température continue à augmenter. C'est l'inertie du système climatique. Et on arrive pour les scénarios bleu foncé et bleu clair. Alors le bleu clair, au passage, correspondant à l'accord de Paris, hein, c'est-à-dire on arrive à stabiliser la température à 1,5 degré. C'est le trait en pointillé, c'est ce que vous voyez ici. On arrive effectivement à stabiliser la température au cours du XXIe siècle. Et vous voyez que uniquement pour le scénario en bleu clair, il semble qu'on commence à amorcer une légère diminution de la température en 2100. Mais donc la température continue quand même, en gros, à augmenter et, dans le meilleur des cas, à se stabiliser. Sur les deux scénarios les plus élevés, vous voyez que la température continue à augmenter. Elle atteint même 5 degrés en 2100 pour le scénario le plus pessimiste. 5 degrés, pour vous donner un élément de comparaison, c'est la variation de température que l'on observe entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Donc le dernier maximum glaciaire, c'était il y a 20 000 ans. On a déglacé en 10 000 ans. Donc on a augmenté la température d'environ 5 degrés en moyenne globale en 10 000 ans, c'est la dernière déglaciation, et vous voyez que nous on est quand même vachement fort, parce que si on suit ce scénario, en fait, en 150 ans, on aura réussi à faire ce que la variabilité naturelle du climat fait en 10 000 ans. Donc ça, c'est des... là on comprend en fait que cette augmentation de température, avec cette augmentation de température, on sort du rythme de la variabilité naturelle du climat. Et puis le scénario peut-être le plus intéressant, c'est le orange sur lequel on est. Donc vous voyez qu'on ne respecte pas cette stabilisation à 1,5 ou 2 degrés. On atteint à peu près 2 degrés en moyenne globale à horizon 2050 pour aller vers pas tout à fait 3 degrés à horizon 2100, ce qui se décline sur le territoire hexagonal par un réchauffement de en moyenne 4 degrés. Dire les choses autrement, sur la trajectoire, avec la trajectoire sur laquelle on est, si on regarde cette barre des 1,5 degrés qui avait été donnée à l'accord de Paris à ne pas dépasser pour qu'on puisse continuer à vivre dans un monde agréable pour tout le monde, eh bien, à partir de 2030, en fait, à peu près une année sur deux, on dépasse ce réchauffement de 1,5 degré. Alors toujours en termes spatial, qu'est-ce que ça donne? Vous avez ici l'évolution des températures dans différentes régions pour différents réchauffements globaux. Donc la trajectoire sur laquelle on est nous emmène à peu près entre ces deux panels en 2100. Donc on retrouve ce qu'on a déjà vu sur les observations au cours du XXe siècle, un réchauffement partout, beaucoup plus accentué sur les hautes latitudes de l'hémisphère nord. J'attire votre attention sur le fait que dans un réchauffement global à plus 4 degrés, on a des températures ici de plus de 7 degrés sur l'Arctique, donc des modifications énormes, à la fois en termes de circulation atmosphérique, en termes de circulation océanographique, en termes aussi d'albédo, avec moins de surface blanche, et donc un réchauffement accéléré par cette perte de surface enneigée. Avec aussi des considérations géopolitiques particulièrement importantes avec de nouvelles routes maritimes qui peuvent s'ouvrir entre les continents. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des pluies, je vous ai beaucoup parlé de température, mais quand vous réchauffez la surface des océans et l'atmosphère, vous changez les régimes de pluie partout dans le monde. Et là, vous voyez que le changement des pluies il va vraiment dépendre de l'endroit où vous êtes. Ce n'est pas uniforme. Donc ici, vous avez aussi les changements des pluies associés à des réchauffements de 2 ou 4 degrés. Lorsque vous avez des couleurs vertes, c'est qu'on a plus de pluie. Lorsque vous avez des couleurs jaunes, c'est que l'on a moins de pluie. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est que suivant le continent, c'est très différent. Vous voyez ici, en Amazonie, des baisses de volume de pluie. Vous les devinez ici sur le sud de l'Europe et en fait sur tout le pourtour méditerranéen. Vous voyez des choses très différentes au niveau du Sahel, avec des augmentations des pluies. Sachant que ces cartes ne le montrent pas, mais qu'il y a vraiment de fortes incertitudes pour les régions continentales tropicales sur la manière dont les pluies vont évoluer. Là, ce sont des moyennes d'une trentaine de modèles, mais vous avez quand même une grande dispersion. Certains modèles vont montrer moins de pluies, certains modèles vont montrer plus de pluies. Donc on a énormément de travail aujourd'hui pour affiner, réduire les incertitudes de ces projections. En France, je ne l'ai pas dit pour la température, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est presque 4 degrés à la fin du siècle, ça veut dire en moyenne 5 degrés l'été. Au niveau des pluies, ce que l'on voit sur le long terme, c'est une légère augmentation des pluies l'hiver sur les deux tiers nord de la France et une diminution assez drastique sur le pourtour méditerranéen. La légère augmentation l'hiver ne compensant pas la diminution l'été, on va vers un assèchement de notre territoire graduellement. Alors, quand je parle de température et de pluie, je parle de composantes ou de variables du système climatique qui réagissent rapidement. Dans le système climatique, on a des composantes lentes qui vont réagir lentement et longtemps à une perturbation d'un des forçages du système climatique. C'est le cas des océans et c'est le cas des calottes polaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous perturbez l'océan, on en a pour des centaines, voire des milliers d'années. Alors, je vais illustrer ça avec l'exemple de la montée du niveau des mers. Donc, aujourd'hui, le niveau des mers, il a augmenté de 20 cm. Alors, vous savez que le niveau des mers augmente pour deux raisons principales. La première raison, c'est la dilatation thermique de l'océan. L'eau chaude occupe plus de place que de l'eau froide. Assez bêtement. Et puis, c'est la fonte des glaciers et des calottes polaires posées sur le continent. Pas la fonte de la banquise. La banquise, c'est comme votre glaçon dans votre verre de jus d'orange le soir. Lorsque le glaçon fond, le niveau dans votre verre, malheureusement, n'a pas augmenté. C'est pareil pour l'océan. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ce niveau des mers ici, toujours pour mes 5 scénarios, ça continue à augmenter. Et puis, vous voyez l'amorce en fait, de courbes un peu exponentielles. Et si on regarde au-delà de 2100, sur les plusieurs centaines, voire un millier d'années, nos modèles montrent que le niveau des mers, dans 1000 ans, continuera à augmenter, même si on arrête aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre. Et ça, c'est le temps de réponse de l'océan à un changement climatique. Alors les prévisions, les projections, vous voyez qu'elles sont entre à peu près un peu moins de 50 cm jusqu'à à peu près 1 mètre. Ce que l'on n'avait pas bien anticipé dans les années 90 et 2000, c'est l'accélération de l'augmentation de ce niveau des mers. Au cours du XXe siècle, l'augmentation était de l'ordre de 1,5 mm par an, assez stable. Et lorsque l'on a eu les satellites qui sont arrivés dans les années 80, qui ont permis des mesures particulièrement précises, on a commencé à vraiment pouvoir regarder de manière non seulement précise, mais très régulière, quel était le taux d'augmentation du niveau des mers. Et aujourd'hui, l'augmentation est supérieure à 4 mm par an. Et c'est surtout la contribution des eaux douces de par la fonte des glaces continentales qui vient augmenter ce taux d'élévation. Alors il y a une courbe un peu énigmatique ici en pointillé qui a été regardée par les scientifiques à la demande des décideurs. Vous savez qu'en fait, le GIEC est sous l'égide de l'ONU et que, en fait, ce sont les décideurs des pays qui demandent au GIEC de faire une synthèse des connaissances. Et lors du dernier rapport, il y a eu une demande sur des événements peu probables, mais à fort impact, ce qu'on appelle en statistique des événements de signe noir. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on avait un point de bascule dans le système climatique avec, par exemple, une fonte brutale des calottes polaires à la fois au nord et au sud. Et donc, il y a eu des articles scientifiques qui ont regardé ce cas-là. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que si on a une déstabilisation de la calotte antarctique, ce qui n'est pas complètement fou à imaginer, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que l'augmentation du niveau des mers, ça passe un cran au-dessus, et on atteint des augmentations de l'ordre de 1 mètre au cours de la deuxième partie du 21e siècle. Alors, aujourd'hui, il y a déjà... D'ici 2050, on a à peu près 1 milliard de personnes qui vivent aujourd'hui dans des zones basses qui vont être affectées par ce niveau des mers qui augmente. On pense en particulier aux États insulaires, dont certains pourraient devenir inhabitables très rapidement, sachant que ce n'est pas quand la mer a recouvert votre île qu'elle est inhabitable, c'est bien avant parce que vous avez par exemple des phénomènes de submersion marine lors des cyclones qui viennent accélérer la situation, on en reparlera tout à l'heure. Alors, je voulais vous dire quelques mots aussi sur le lien entre changement climatique et événements extrêmes, parce que ce n'est pas l'actualité malheureusement qui manque pour venir illustrer ce lien. Alors, ce qu'on appelle événements extrêmes, quand on est climatologue, c'est les vagues de chaleur, les sécheresses et les pluies torrentielles. Donc, je vais vous parler de... Je pourrais faire une conférence uniquement là-dessus. Je vais vous dire quelques mots sur les vagues de chaleur et sur les pluies torrentielles. Alors, première chose, on sait que le changement climatique vient augmenter l'intensité, la fréquence et la durée des vagues de chaleur partout dans le monde, que ce soit les vagues de chaleur continentales ou les vagues de chaleur marines. Et on sait aussi que ces vagues de chaleur, elles peuvent s'étaler, par exemple, en Europe, non plus uniquement sur la saison estivale juillet-août, enfin le cœur de la saison estivale, mais qu'elles peuvent arriver en juin, on en a vécu une en 2019, et qu'elles peuvent arriver au mois de septembre, eh bien, on en a vécu une il y a quelques jours. Alors, quand on regarde un petit peu comment est liée l'intensité et la fréquence de ces vagues de chaleur au réchauffement, vous avez ce genre de graphique ici, où on prend l'exemple d'une vague de chaleur qui arrivait une fois tous les 50 ans dans un climat non modifié par l'homme. Et on regarde aujourd'hui eh bien, cette vague de chaleur qui avait un temps de retour de 1 sur 50 lorsque notre climat était uniquement gouverné par sa variabilité naturelle. Qu'est-ce qu'elle devient ? Alors aujourd'hui, dans un réchauffement à 1,2 degré, eh bien, on voit que sa fréquence a beaucoup augmenté, elle arrive une fois tous les 50 ans, elle arrive une fois tous les 10 ans, et en plus, elle est plus chaude. Elle est plus chaude de 1,2 degré. Si je regarde pour un niveau de réchauffement de 2 degrés, on voit que la fréquence augmente, on voit que l'intensité augmente aussi, et j'attire votre attention, l'intensité de la vague de chaleur augmente plus que le réchauffement lui-même. Et en fait, ça, c'est quelque chose que nous savons. L'intensité des événements extrêmes augmente plus vite que le degré de réchauffement. Et puis finalement, si on regarde pour des réchauffements à plus 4 degrés, qui correspondent à mes scénarios rouges de tout à l'heure, eh bien, cette vague de chaleur, c'est presque tous les ans qu'elle arrive. Et puis, non seulement elle arrive presque tous les ans, mais elle est plus de 5 degrés plus chaude en moyenne. Quand on regarde en France, Météo France suit les vagues de chaleur depuis 1947. Alors pourquoi depuis 1947 ? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de vague de chaleur avant, c'est qu'en 1947, il y a eu une vague de chaleur particulièrement intense et Météo France a mis une équipe sur la statistique des vagues de chaleur. Alors vous avez ici 40 petits ronds, qui sont les 47. Il y a eu 47 vagues de chaleur depuis 1947. Vous avez pour chaque vague de chaleur un petit cercle qui représente l'intensité et la durée avec la taille du cercle. Alors l'intensité, c'est quoi? On regarde en fait sur 30 stations météo bien réparties sur le territoire hexagonal, la température moyenne pendant la vague de chaleur. Alors ce que vous voyez à l'œil nu, hein, c'est que depuis 1947, eh bien, on a beaucoup plus de vagues de chaleur qu'avant. Hein, sur les 47, en fait, vous en avez près de la moitié qui sont arrivées après 2010. Alors sachant que Météo France a une définition très précise hein, pour les vagues de chaleur, on pourra y revenir. Ce que vous voyez aussi, c'est que l'intensité des vagues de chaleur tend à augmenter. Hein. Vous avez ici la vague de chaleur de 2003. Ici, vous avez juillet 2022, juillet 2019 et celle que l'on a vécue cet été. Pour information, en 2019, on a eu une vague de chaleur précoce au mois de juin et c'est pendant cette vague de chaleur, le 28 juin, qu'on a battu ce qu'on appelle le record de température absolue, c'est-à-dire qu'on a enregistré une température qu'on n'avait jamais enregistrée sur le territoire hexagonal de 46,2 degrés dans l'Hérault. Autre point important, quand vous regardez l'été 2022, on a comptabilisé 33 jours de vagues de chaleur. Alors ça, c'est énorme. Avant 1989, on avait en moyenne chaque année 2 jours de vagues de chaleur. En gros, il y avait des années sans vagues de chaleur. Et quand il y avait une vague de chaleur, ça durait 4-5 jours. Des chiffres aux alentours de 30, c'est les projections que l'on a pour 2030. Donc on est un peu en avance en termes d'impact du changement climatique sur les extrêmes, en particulier les vagues de chaleur sur le territoire hexagonal. Alors j'ai ressorti cette diapositive suite au vœu du président. C'est une diapositive qui date de 2001. Et en 2001, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modèles de climat français. Il y a le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace et il y a le modèle de Météo France. Et en 2001, il y avait eu une simulation de l'évolution des températures estivales sur le 21e siècle. Les observations sont en rouge, hein, elles s'arrêtent ici au niveau des années 2000, hein, puisque ma diapo elle a plus de 20 ans. Et vous avez là la projection ici qui est en noir. D'accord ? Je vous ai rajouté, vous avez ici le niveau de température pour l'été. D'abord, vous voyez que les observations et la projection en noir collent bien. Alors, on n'a pas année pour année, mais je vous rappelle, nous, on regarde la tendance hein, quand on est climatologue, et pour nous, ça, c'est bien. Alors, j'ai rajouté 2003, et puis j'ai rajouté 2022. Alors, à la question « Qui pouvait prévoir que l'été 2022 aurait cette température ?», la réponse est « Il y a 20 ans, les climatologues de l'Institut Pierre-Simon Laplace ». Ça, c'est pour l'anecdote. Mais par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que si vous regardez le niveau des étés 2003 et 2022, 2003-2022, c'est des étés à peu près kiff-kiff, vous voyez qu'à horizon 2050, ce sont des étés normaux, et vous voyez qu'à horizon 2100, ce sont des étés frais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui était exceptionnel pour nous va devenir la norme. Et sur, étant donné notre espérance de vie, beaucoup d'entre vous seront encore là en 2050, et donc ce qui vous a paru exceptionnel l'année dernière, eh ben, vous paraîtra tout à fait normal en 2050, et pour ceux qui seront encore là en 2100, si en 2100 vous revivez l'été 2022, vous direz « Ah quand même, c'était un été assez pourri cette année. » Donc c'est important d'avoir ça en tête. Alors, un mot des pluies torrentielles. Et là, c'est pour vous illustrer quelque chose d'important qui n'est pas forcément intuitif. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré des projections pour les changements des pluies, et suivant la région, vous aviez des régions où les pluies augmentaient et où les pluies diminuaient. Lorsqu'on regarde les extrêmes, c'est la théorie des extrêmes, eh bien les choses sont très différentes. À peu près partout dans le monde, sur les régions continentales, les extrêmes de pluie, c'est-à-dire les volumes de pluie pendant les pluies torrentielles, augmentent. Ça veut dire que si vous prenez un événement de pluie torrentielle au XXe siècle et que vous remettez cet événement de pluie torrentielle au XXIe siècle, bon, non seulement vous le verrez plus souvent, mais en plus, il sera beaucoup plus pluvieux. Alors pourquoi? En fait, c'est de la physique de base, c'est la loi de Clausius-Clapeyron. Quand vous augmentez la température de l'atmosphère, eh bien, elle peut contenir plus de vapeur d'eau, 7% de plus de vapeur d'eau à chaque fois qu'elle augmente de 1 degré. Et donc, quand il y a une situation météorologique qui vient refroidir cette atmosphère, la vapeur d'eau condense, elle vous retombe dessus. Et donc, le volume potentiel qui vous retombe dessus est beaucoup plus important. Et donc, vous voyez l'augmentation des pluies extrêmes. Si vous regardez tous les continents, la couleur est verte et on monte jusqu'à à peu près 40%. Et donc, il faut bien comprendre qu'on peut avoir des régions qui, graduellement, au niveau des tendances, vont s'assécher, vont voir leur volume de pluie diminuer, mais vont être soumises à des pluies torrentielles de plus en plus intenses. On a vu, par exemple, la Libye, il y a quelques jours. D'accord ? Et c'est le cas d'autres régions. C'est le cas de l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud, le Brésil, l'Afrique du Sud. Et ces pluies, vous vous dites, c'est pas grave, ça va se compenser. Mais non, ça ne se compense pas parce que ces pluies torrentielles, elles tombent sur des sols secs. Donc elles ne s'infiltrent pas, elles ruissellent. Et donc c'est des pluies non efficaces, à la fois pour nos nappes phréatiques et pour la végétation. Alors, j'ai quelques diapositives sur d'autres impacts du changement climatique avant de passer aux stratégies d'adaptation et d'atténuation. Alors, il y a un groupe du GIEC qui s'occupe de regarder tout ce qui est impact du changement climatique. Donc, un impact dont on parle, je trouve, pas assez, c'est l'impact sur notre santé des vagues de chaleur. Alors, vous avez en fait ici des cartes qui vous montrent, avec cette barre de couleur ici, le nombre de jours par an où les populations sont exposées à des conditions mortelles, à la fois de température élevée et d'humidité élevée. Alors pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une vague de chaleur et qu'il fait très humide, votre corps a énormément de difficultés à mettre en route sa climatisation personnelle, c'est-à-dire la transpiration. Et ça peut conduire à des morts de manière assez violente. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, on a déjà, sans surprise, dans les régions intertropicales, un grand nombre de la population qui, plusieurs jours par an, est exposée à ces conditions potentiellement mortelles. Et ensuite, on regarde pour plusieurs degrés de réchauffement comment ce nombre de jours évolue par an. Nous sommes sur une trajectoire de réchauffement qui nous emmène sur ces panels du milieu. Et vous voyez qu'à horizon 2050, déjà, la couleur violette apparaît sur certaines régions, ici en Amazonie, ici en Asie du Sud-Est, là au nord du golfe de Guinée. Et donc, on atteint le haut de la barre de couleur. Et si je vais vers un réchauffement un peu plus important et à la fin du siècle, eh bien, c'est 50 à 75% de la population mondiale qui, quasiment toute l'année, est potentiellement exposée à des conditions mortelles d'extrême de chaleur et d'humidité. Un autre impact dont on parle souvent, bien sûr, c'est l'impact du changement climatique sur la biodiversité, sachant que le changement climatique n'est qu'un des facteurs qui agit sur la biodiversité. Les espèces invasives, par exemple, sont une grande part d'explication dans la chute de la biodiversité que l'on observe aujourd'hui. Alors, vous avez ici, pour différents degrés de réchauffement, encore une fois, le pourcentage de biodiversité perdue. Nous allons vers un réchauffement de plus 3 degrés à horizon 2100. Et vous voyez que dans certaines régions, on a déjà des couleurs rouges, c'est-à-dire qu'on a plus de 75% de la biodiversité qui est perdue. J'attire votre attention sur le fait qu'entre le panel du bas et ce panel-là, le réchauffement a été seulement multiplié par 2. Or, si vous regardez en termes de perte de biodiversité, c'est multiplié par 10, en fait. Donc, l'impact du réchauffement sur la perte de la biodiversité est beaucoup plus rapide que le réchauffement lui-même. Un autre exemple, alors dans les rapports du GIEC, ce genre de diapo, il y en a pléthore. J'ai vraiment choisi quelques exemples qui me parlent, mais n'hésitez pas à les regarder vous-même. Un point important, c'est bien sûr sur l'impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire. Vous avez ici l'exemple de l'impact du changement climatique sur les changements de biomasse marine, donc finalement sur les rendements de pêche. Alors vous voyez, les couleurs roses, c'est qu'on perd de la biomasse marine, les couleurs vertes, on en gagne. Sans grande surprise, on en gagne dans les régions de haute latitude, là où le réchauffement est plus important et là où la glace de mer disparaît. En revanche, vous voyez que sur une très grande partie des océans, on perd en fait de la biomasse. Et ça, ça a un impact direct, en particulier sur le continent africain, où beaucoup de pays littoraux ont une grande dépendance aux prises de pêche et où là, finalement la sécurité alimentaire va être particulièrement mise à mal par ce changement climatique. Donc vous avez ici les pays qui sont dépendants à la nourriture marine et vous avez ici en fait le changement dans les prises de pêche potentielles. Vous voyez que, vous voyez pas très bien, mais ici la couleur rouge la plus foncée, c'est 61 à 70% de pertes. Vous voyez que dans un réchauffement qui atteindrait 4 degrés, on a des chutes de rendement, en particulier ici dans le golfe du Guinée, qui sont particulièrement importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, face au changement climatique, la politique de l'autruche, la politique du déni ou du climato-scepticisme ou l'éco-anxiété sont pas forcément des bonnes réponses. Parce qu'en fait, il faut agir. Alors, il y a deux voies d'action. La première voie, c'est l'adaptation. La deuxième voie, c'est l'atténuation. Alors, l'adaptation au changement climatique, pourquoi elle est nécessaire ? Déjà, aujourd'hui, on a à peu près la moitié de la population sur Terre qui vit dans une région ultra vulnérable au changement climatique. Vous n'avez qu'à regarder l'actualité. C'est terrible, sans être cynique, on visite plein de régions du monde en suivant les catastrophes climatiques qui arrivent. Et puis, je voulais montrer, même dans un scénario où on réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, au mieux, on arrive à stabiliser la température à 1,5 degré au cours du 21e siècle. Ça veut dire que la température continue à augmenter dans les années à venir, puisqu'on n'en est qu'à 1,15 degré. Souvent, on pense que l'adaptation concerne essentiellement les pays pauvres. C'est une idée fausse. En Europe, on est particulièrement sensible à certains événements. Ce sont les vagues de chaleur, avec, je vous en ai parlé, des impacts sur la santé, mais aussi des impacts sur les écosystèmes marins et terrestres. Là, je pense aux vagues de chaleur marine, par exemple, que la Méditerranée connaît, et ses impacts sur les coraux. Nos rendements agricoles sont particulièrement sensibles à la diminution des pluies. Et vous savez que depuis 2 ans à peu près, on a un niveau de nappe phréatique très bas. Aujourd'hui, 62% de nos nappes phréatiques sont en dessous le niveau attendu à cette saison. On est particulièrement sensible à la pénurie d'eau. L'année dernière, certains villages de l'Hérault ont été ravitaillés par camions-citernes. Il n'y avait plus d'eau. Et puis, on est très sensible aux inondations, plusieurs types d'inondations. Les inondations par la pluie, bien sûr, les inondations par débordement des cours d'eau, les inondations côtières, rappelez-vous la tempête Xynthia en 2010, on va en reparler. Et puis, on a aussi un risque très fort d'impact sur notre patrimoine, en particulier à Paris. Si on revit la crue de 1910, on a toutes les réserves des musées qui sont à déménager, si possible, quelques jours avant. Alors, en termes d'adaptation, je vais reprendre mon exemple de l'élévation du niveau des mers parce qu'il permet d'illustrer des concepts assez différents. Le niveau des mers augmente, vous avez plusieurs choix. Premier choix, vous vous dites « Non, le niveau des mers augmente pas, je veux pas voir, je veux pas regarder, pas de réponse ». Rapidement, j'espère que vous avez 1 ou 2 étages à votre maison. Il y a ensuite un ensemble de réponses qui sont très différentes les unes des autres. La première réponse que l'on a déjà utilisée en fait, chez nous, c'est de faire des digues. Alors les digues, c'est ce qu'on appelle une maladaptation. Je reprends l'exemple de la tempête Xynthia qui a touché la région de La Rochelle en 2010. Il y avait des digues. D'abord, ces digues, elles étaient dimensionnées sur des événements de pluie et de tempêtes, de submersion marine extrême des années 60-70. Or, les événements extrêmes d'aujourd'hui et les événements extrêmes de demain n'auront pas la même intensité. Donc première chose, si votre digue n'est pas dimensionnée à la hauteur, c'est un peu problématique. Deuxième chose, lorsque vous construisez une digue, vous induisez un sentiment de sécurité, si bien qu'en fait, on voit derrière des villes ou des villages s'installer, tout en, avec un vrai sentiment, hein, pas fin, un vrai sentiment de sécurité. C'est ce qui s'est passé lors de la tempête Xynthia avec voilà, finalement cette submersion marine hein, qui était une élévation ponctuelle du niveau des mers à cause d'une tempête particulière qui a en fait complètement inondé ce qu'il y avait derrière la digue. Les digues, c'est aussi assez délétère pour certaines petites îles. On se dit, c'est pas grave, pour certaines îles, on va mettre des digues. Mais en fait, là, vous empêchez un processus naturel qu'on connaît bien sur certaines îles, c'est leur capacité à regagner du terrain sur la mer après certains cyclones, par exemple, par transfert et dépôt du sédiment dans les lagons. Donc, en fait, les digues, c'est vraiment une très mauvaise idée. Vous avez d'autres solutions qui sont beaucoup plus adaptées. Vous pouvez construire sur pilotis. Vous pouvez avancer sur la mer, vous pouvez bien sûr reculer. Et puis, il y a les solutions basées sur la nature hein, qui vont souvent être mises en avant. Pourquoi ? Parce que lorsque vous utilisez ces solutions basées sur la nature, donc entretenir les mangroves, entretenir les dunes, entretenir les récifs coralliens, vous remplissez des objectifs du développement durable qui n'ont rien à voir, qui sont par exemple préserver la biodiversité aquatique et terrestre. Et donc, toute cette restauration des écosystèmes côtiers font partie des solutions qui sont particulièrement appréciées pour se protéger de l'élévation du niveau des mers. En fait, quand vous avez, vous entretenez une mangrove, donc la mangrove, vous savez, c'est cette espèce de zone entre la côte et la mer où vous avez peu d'eau, mais vous avez énormément de végétation. Et lorsque vous avez, par exemple, des submersions marines, eh bien, au lieu d'avoir une sorte de déferlement de cette vague sur la côte, elle va être stoppée à la fois par les récifs coralliens et par les mangroves. Donc elle va détruire la mangrove et le récif corallien, mais elle va moins détruire le trait de côte. Alors, l'adaptation, il y a plusieurs points assez critiques. Aujourd'hui, on voit hein, qu'il y a une adaptation qui est en cours. Alors, je suis désolée pour cette diapo qui est un peu chargée. Il y a une adaptation en cours, mais elle n'est pas assez rapide par rapport à la vitesse du changement climatique. Elle reste à l'échelle locale. Il n'y a pas aujourd'hui d'organisation à l'échelle nationale d'une adaptation réfléchie pour chacun des territoires. La plupart des adaptations vont prendre en compte les risques de court terme et pas les risques de long terme, par manque d'informations des fois, hein, tout simplement. Et puis, ces adaptations, elles sont surtout sociales. Elles vont reposer sur votre comportement, sur votre éducation, sur votre information. Mais elles ne vont pas être assez structurelles, c'est-à-dire reposer sur la technique, l'ingénierie, sur la nature. Et surtout, elles ne vont pas être... Elles ne sont pas institutionnelles aujourd'hui. Par exemple, on n'a pas de loi aujourd'hui avec des décrets qui se mettent en place quand on a une vague de chaleur pour, par exemple, stopper les examens, si on a une vague de chaleur au mois de juin, fermer les écoles, autoriser les travailleurs à s'arrêter entre midi et 16 heures, etc. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas sous forme de loi. C'est l'employeur ou c'est le proviseur d'un collège qui va décider que là, ça ne va pas être possible. Mais derrière, il n'y a pas de loi de régulation économique. Le point très critique, de mon point de vue, c'est les limites. On sait que l'adaptation, elle ne peut pas répondre à l'ensemble des pertes et dommages qui vont être causés par certains événements extrêmes. Et puis surtout, ce que montrent les études, c'est qu'au-delà d'un réchauffement de 2 degrés, l'adaptation devient très complexe, voire impossible sur certains territoires. Je reprends l'exemple des îles. Tant que la mer monte, mais que vous avez encore les pieds au sec, vous pouvez faire des adaptations. Lorsque l'eau a recouvert votre île, c'est fini, l'adaptation, il n'y en a plus et vous partez. D'accord ? Un dernier point, l'adaptation, ça prend du temps. On parle beaucoup, par exemple, de l'adaptation de notre schéma agricole aux vagues de chaleur et aux sécheresses. En fait, ça ne peut pas se faire en un an ou en deux ans. Donc cette adaptation, elle aurait dû débuter il y a déjà 10-15 ans pour qu'aujourd'hui, on ait beaucoup moins d'impact sur les rendements agricoles quand on a des déficits de pluie comme on a connu au cours des deux dernières années. Et puis enfin, il y a des freins à l'adaptation. Le premier frein, c'est notre perception. De mon point de vue, jusqu'à l'été dernier, on n'avait pas encore bien pris... on n'avait pas encore bien compris l'état d'urgence de la situation pour nous en France. C'est seulement quand certaines personnes ont eu le feu au bout de leur jardin qui se sont dit « Ah mais mon Dieu, il y a aussi des impacts chez nous en France du changement climatique ». Donc en fait, on a une perception du risque qui est faussée et même on n'a pas de culture du risque en France hexagonale. Ce n'est pas le cas dans nos outre-mer français par exemple, hein, où la culture du risque est beaucoup plus développée. Il y a un manque de volonté politique, je passe, et il y a un manque de ressources financières et humaines. Il y a des limites aussi à l'adaptation technique. Vous aurez peut-être des questions, par exemple, sur le captage du dioxyde de carbone. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas une technique qui est mise au point et qui a un coût raisonnable. Hein, donc les émissions négatives dont je parlais tout à l'heure, on n'y est pas. Et puis la recherche sur les stratégies d'adaptation est très inégale d'un territoire à l'autre. Si vous regardez en fait les études scientifiques qui regardent les solutions d'adaptation pour le continent africain, vous n'en avez quasiment pas par rapport aux solutions d'adaptation sur les mégapoles des villes européennes, par exemple. Alors maintenant, sur l'atténuation. Alors, à la question « Comment ne pas dépasser 1,5 degré ?», le physicien du système Terre est tout à fait capable de répondre à votre question, et ça depuis un long moment. Alors, si on ne veut pas dépasser 1,5 degré, c'est très simple. Il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous sommes ici en 2020, parce qu'en fait, là, je vous montre les résultats du rapport qui s'appelle le rapport spécial à 1,5 degré. Donc, c'est un rapport intermédiaire qui a été demandé par les décideurs politiques au GIEC et qui a été publié en 2018. Donc en 2018, il y a eu pas mal d'études scientifiques avant 2018 qui ont dit « Ah ben ça, c'est facile, on sait faire ». Donc comment on fait ? Eh bien, on a un pic des émissions globales en 2020. Ensuite, on réduit nos émissions entre 2020 et 2050 à un rythme qui est de 5 à 7% par an, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, donc on n'émet plus, et si on émet encore un peu, on est capable de récupérer, et ensuite on passe à des émissions négatives. Donc on sait faire, enfin, sur la diapo je veux dire. Où est-ce qu'on en est ? Alors, c'est à peu près les mêmes scénarios. Donc, les scénarios bleus que je viens de vous montrer, c'est ça, hein, ces scénarios bleus ici. Aujourd'hui, nous sommes sur la trajectoire qui est rouge. D'accord ? Donc, la différence hein, en termes d'émissions entre ces deux scénarios, c'est un peu plus de 20 gigatonnes de gaz à effet de serre par an. D'accord ? Et là, attention, je vais de 2015 à 2030. Donc vous voyez que déjà, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire aujourd'hui. Alors, juste au passage, bon, on parle 1,5 de degré, 2,5 degrés. Enfin, vous allez me dire, mais c'est bon, quelques dixièmes de degré en plus, en moins, c'est pas très grave sur la planète. Hein. Ce matin, je me suis levée, il faisait 10. Là, il est 15h, dehors il fait 18, on a pris 8 degrés et tout le monde va bien. Vous avez raison, mais par contre, vous confondez deux choses. Vous confondez la variabilité attendue de la température à l'intérieur d'une journée ou même à l'intérieur d'une saison. Et par exemple, au printemps et à l'automne, vous avez une amplitude thermique pendant la journée qui peut dépasser 15 degrés. Et vous confondez ça avec la variabilité interannuelle de la température attendue. La variabilité interannuelle de la température, donc la variabilité de la température d'une année à l'autre naturellement, c'est de l'ordre du dixième de degré, voire quelques dixièmes de degré quand on a des événements El Niño. Donc quand on parle déjà d'un réchauffement de 1,5 degré, vous êtes 15 fois au-dessus du rythme naturel de la variabilité climatique. Et entre un monde à 1,5 et un monde à 2 degrés, c'est complètement différent. Par exemple, dans un monde à 2 degrés, vous n'avez plus de coraux. Alors que dans un monde à 1,5 degré, en gros, Vous ne les avez pas encore tous perdus. Hein. La perte est entre 70 et 90%. Donc vous en avez perdu beaucoup, mais il vous en reste encore un petit peu. Si vous regardez la banquise l'été, dans un monde à 2 degrés, vous avez une absence de banquise une fois tous les 10 ans, alors que c'est une fois tous les siècles dans un monde à 1,5 degré. C'est 10 cm d'élévation du niveau des mers de différence. 10 cm d'élévation du niveau des mers en moins, vous allez dire c'est rien, mais quand vous avez une tempête et des submersions marines, c'est une différence absolument énorme. C'est bien sûr des pénuries en eau qui sont beaucoup moins importantes à 1,5 degré. C'est deux fois moins de personnes touchées par les pénuries en eau à travers le monde. Et puis évidemment, c'est des événements extrêmes d'intensité moindre dans un monde à 1,5 degré. Alors je crois que c'est ma dernière diapo, donc vous allez me dire, bon, bah, tout ça c'est bien, maintenant on sait que c'est possible. Alors comment on fait? Alors il y a plusieurs voies. La première voie qui paraît évidente, c'est d'arrêter la combustion des énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz. Hein, quand j'entends parler de gaz naturel... ce n'est pas très, très naturel de brûler du gaz. En tout cas, c'est très émetteur de dioxyde de carbone. Pour compenser, bien sûr, cette diminution, et voire cet arrêt de la combustion des énergies fossiles, on a besoin d'augmenter les énergies, la part des énergies renouvelables et de renforcer notre efficacité énergétique. Donc derrière, là, vous avez les voitures électriques, la rénovation thermique des bâtiments, etc. Un point qui paraît évident et des fois qui paraît pas bien efficace, mais qui l'est grandement, c'est de réduire notre demande. En gros, c'est la sobriété. La sobriété, c'est un levier d'action qui permet de réduire de 40 à 70% de nos émissions tout en vivant correctement. Il y a un gros point, bien sûr, se réorienter les financements. Les économistes du climat nous disent que les flux financiers sont là. Aujourd'hui, par exemple, votre épargne sur votre livret A, dans votre banque, elle va regarder, mais en grande majorité, soutenir tout ce qui est l'industrie de l'énergie fossile. Elle pourrait soutenir autre chose, en fait. Hein, et ça ne changera pas ce que vous avez sur votre livret A. Vous n'aurez ni plus ni moins. Ni plus malheureusement, mais voilà, les financements sont là, mais il faut les réorienter. Alors, bon, ça, ce n'est pas du tout ma compétence, hein, j'espère que vous n'aurez pas trop de questions là-dessus, et là, il va falloir aller regarder le rapport du groupe 3 là-dessus. Et le dernier point, c'est l'innovation technique, donc là, je pense à tout ce qui est émissions résiduelles de gaz à effet de serre qu'il faudra bien réussir à capter. Voilà. Alors, un exemple, dans le secteur du transport, hein, qui nous concerne en France, généralement, il y a un triptyque qui est est-ce qu'on peut éviter de se déplacer ? Est-ce qu'on peut se déplacer autrement ? Et est-ce qu'on peut améliorer la performance de nos déplacements ? Donc, éviter, c'est est-ce qu'il faut vraiment que je me déplace ? Est-ce que je viens faire la conférence ou est-ce que vous me regardez en visioconférence ? La remplacer, c'est je ne peux pas éviter de venir. Mais est-ce que je peux venir avec un mode de transport doux, décarboné ? Bon, la marche, le vélo, pour venir jusqu'ici, c'est pas facile, mais effectivement, il y a le train. Et puis, quand il fonctionne. Et la dernière chose, c'est améliorer. Il y a beaucoup de questions sur améliorer, en fait, non pas la performance, hein, parce que les batteries électriques, c'est déjà assez performant, mais améliorer l'autonomie de votre voiture électrique. Et bien sûr, sur la voiture électrique, il y a aussi derrière tout ce qui est le financement du véhicule lui-même par une famille. Voilà. Donc tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas ma compétence, mais le GIEC, en fait, il y a un groupe qui regarde tous ces aspects. Et je crois que j'ai fini. Donc juste un point, si vous voulez aller plus loin... Il y a vraiment des sites que je vous conseille. Bien sûr, tous les rapports du GIEC qui sont en ligne. Alors, les rapports en eux-mêmes, c'est vraiment pas facile à lire. Par contre, les résumés pour décideurs, ce n'est pas des scientifiques, ce sont des politiques. J'ai aucun doute que vous avez un niveau égal ou inférieur en termes de compréhension de la science. Donc, ce sont des résumés qui font 20 à 30 pages. Il y a des illustrations qui sont très parlantes. Je vous invite à aller les regarder. Je vous invite aussi, je vous l'ai dit, à aller voir les rapports du Haut Conseil pour le climat. C'est des rapports annuels, très bien illustrés, en particulier leur version grand public. Vous avez eu en 2022 des fiches qui ont été éditées pour former les sénateurs à ce que c'est que le changement climatique. Elles sont vraiment très, très pédagogiques. Pareil, vous pouvez aller regarder. Vous pouvez calculer votre empreinte carbone. Alors, c'est très ludique, hein. Vous avez ce site ici, Agir pour la transition. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est même, ça s'appelle... mesgestesclimat.fr. C'est très intéressant parce qu'à chaque fois que vous allez répondre à une question, vous allez voir si vous augmentez ou si vous diminuez votre empreinte carbone. C'est-à-dire que vous partez de l'empreinte carbone moyenne d'un Français et puis vous regardez, vous, par rapport à ça, au fur et à mesure des questions, si vous augmentez ou si vous diminuez. Et ça vous montre, en fait, à vous, là où vous pouvez agir si vous en avez envie. Et puis, dernier point, vous avez ce site... qui vient quantifier les impacts quotidiens. Souvent, on me pose la question, mais finalement, combien j'économise de dioxyde de carbone en mangeant un kilo de poulet par rapport à un kilo de bœuf ? Eh bien, vous avez la réponse ici sur ce site. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà, j'arrête là.